Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et la nuit prochaine, Franck Ferrand sera au cœur du dispositif mis en place par Europe 1 pour cette nuit américaine spéciale élection présidentielle. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous nous préparons en effet à tenir l'antenne dans l'attente des toutes premières estimations. Après Nikos Aliagas de 23h à 1h du matin et avant Martial You et Bastien Millau de 3 à 5, je recevrai en effet de 1h à 3h du matin. Il va falloir tenir bon. Moi qui ne bois pas de café, vous imaginez. Je recevrai quelques-uns des meilleurs spécialistes de l'histoire politique américaine, dont Nicole Bacharan et André Caspi. Avec eux, nous évoquerons plus de 2 siècles de candidatures, de conventions, de débats, d'élections, de conflits politiques, avec quelques coups de projecteur, notamment sur le duel Nixon-Kennedy avec George Ayache, sur la transition Carter-Reagan et sur les mandats de Bill Clinton, de George W. Bush et de Barack Obama, bien entendu.
Mais en attendant, sur Europe 1, c'est d'un tout autre sujet que vous avez choisi de nous parler aujourd'hui.
En effet, Julia, l'ouragan Sandy s'est invité dans cette élection présidentielle américaine et du coup on a eu tendance à oublier un peu les autres pays touchés, à commencer par Haïti où un bon million de personnes à l'heure où je vous parle est menacée de famine. Cela m'a incité à explorer de nouveau le passé mouvementé d'Haïti en mettant plus spécialement l'accent aujourd'hui sur la révolte historique des esclaves de Saint-Domingue.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À cette époque, on ne disait pas Haïti mais Saint-Domingue. Cette grande île de la Caraïbe, de la taille de l'Irlande à peu près, n'avait pas encore été séparée en 2 États. À cette époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue était une colonie française extrêmement prospère. Malgré ses reliefs accidentés, il faut savoir que les montagnes au centre culminent à bien plus de 3000 mètres, et malgré sa végétation très luxuriante, épanouie en forêts épaisses, cette île offrait des terres bonnes à cultiver, idéales pour le coton et la canne à sucre. Terres agricoles donc, où s'échinait toute une population d'esclaves noirs importés d'Afrique, sous le contrôle d'une population blanche stratifiée. Alors au sommet, vous aviez quelques grands blancs, les colons, et puis beaucoup de petits blancs qui vivotaient aux côtés d'une population d'esclaves affranchis et de noirs libres. À cette époque, entendez, au tournant de 1790, Saint-Domingue s'apprête à faire sa révolution. Il faut dire que la France ne lui a guère laissé le choix. La métropole a enfermé l'île dans le système bien verrouillé d'un pacte colonial qui interdit purement et simplement aux Dominicains de commercer avec qui que ce soit d'autre. Ce que les Français ne veulent ou ne peuvent pas acheter ne peut être écoulé ailleurs, ce qui évidemment pèse sur les prix et entrave le développement. La masse du trafic maritime est énorme au demeurant. On a un peu oublié ça, mais dites-vous que l'île alimente 1 métropolitain sur 4 en masse. On comprend que les tenants du système sur place, à savoir les grands colons blancs, se soient lassés du pacte colonial. Ils énoncent depuis longtemps des revendications de plus en plus audacieuses, et d'autant plus audacieuses qu'à Paris, le climat est insurrectionnel. Ils ont d'abord été soutenus dans leurs revendications par les anciens esclaves affranchis, dont certains ont fait fortune, notamment dans les plantations de café. Quand je dis que ces affranchis soutiennent les grands blancs, ça n'a rien de réciproque. Ces derniers se montrent parfaitement intraitables avec les gens de couleur, comme on les appelle, même nouveaux riches. Ils refusent de se mêler à eux sous aucun prétexte, d'où les tensions qu'on peut imaginer et bientôt des conflits qui vont voir les affranchis se dresser contre les colons et bien sûr aussi contre les négociants de métropole. Pour le reste de la population, pour les esclaves considérés en droit comme des animaux ou même des machines, il ne faudrait pas croire qu'ils se soient résignés à leur sort. Simplement, leur combat encore souterrain, leur émancipation, ils ne l'envisagent qu'à travers la religion ou ce qui leur en tient lieu, le vaudou. Alors qu'est-ce que c'est que le vaudou? On va en parler dans un instant. Disons que c'est une sorte de grand élan syncrétique où entre sous une teinture de catholicisme beaucoup d'animisme importé d'Afrique et toutes sortes de croyances locales agglomérées. Alors attention, il ne faudrait pas ranger trop vite le vaudou au rang des sous-cultures ou sous-religions. Il y a en fait dans cette sorte de religion unificatrice un succès d'années de tradition et d'enracinement qui exalte dans la masse de moins en moins contrôlable des esclaves iliens une soif de justice, une haine de l'asservissement, une volonté de vaincre incommensurable et qui bientôt aura les plus grands effets. De plus en plus d'esclaves désertent selon les colons ou se sauvent de leur point de vue. Disons qu'ils s'échappent en tout cas des plantations et des domaines pour se révolter un à un contre la servitude. Ces fugitifs auxquels on fait subir lorsqu'ils sont repris des supplices affreux, ces anciens esclaves réfugiés dans les forêts ou les montagnes s'appellent depuis le milieu du siècle des marrons, d'où le nom de marronnage qu'a finalement pris leur mouvement. On entrevoit quel effet va produire sur une telle société aussi contrainte, divisée, en ébullition, quel effet va produire le ferment révolutionnaire de 1789. Tour à tour, les nouvelles lointaines de la prise de la Bastille, de l'abolition des privilèges et surtout de la déclaration des droits de l'homme vont jouer sur le chaudron haïtien comme l'huile sur le feu. Les vieilles tensions s'exacerbent. Elles vont bientôt déboucher sur une autre révolution, tropicale, brutale et d'une certaine façon exemplaire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec Franck, vos deux invités aujourd'hui sur Europe 1, Frédéric Réjean est historien, maître de conférences en histoire à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et auteur notamment de La France et ses esclaves, de la colonisation à l'abolition chez Grasset. Également avec nous Jacques Salès qui est avocat au barreau de Paris et auteur de Haïti, naissance tragique 1779-1803 aux éditions France Empire.
Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Vous avez écrit chacun dans votre registre des ouvrages passionnants. Et lorsqu'on parle de la France et de ses esclaves, évidemment, le titre peut paraître un peu provocateur, mais on désigne une réalité. Et les esclaves qui se trouvaient en Haïti dans cette fin du XVIIIe siècle présentaient une particularité, il faut le dire tout de suite, Frédéric Réjean.
Oui, donc la France comptait environ 800 000 esclaves à la veille de la Révolution française en 1789. Et à Haïti, il y en avait environ un demi-million. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 28 millions d'habitants dans le Royaume de France à cette époque-là. Et c'est une population qui est considérable. D'ailleurs, à ce moment historique précis, la France est la puissance européenne qui concentre le plus d'esclaves dans ses colonies.
Et les esclaves de Saint-Domingue, puisque c'est ainsi qu'on appelle l'ensemble de l'île à l'époque, de cette colonie française si prospère, ces esclaves sont d'origine africaine. Ils viennent du centre de l'Afrique pour la plupart et depuis peu de temps, il faut bien préciser ça.
Voilà, c'est-à-dire environ 70% des esclaves de Saint-Domingue sont là seulement depuis 15 ans lorsqu'éclate la Révolution française. Donc nés en Afrique, pas complètement ce que l'on appelle créolisés, c'est-à-dire que les esclaves qui sont nés sur place. Si on prend comme exemple la Guadeloupe ou la Martinique, là la population est créolisée à 70%. Et donc c'est la grande différence qui est certainement un des facteurs explicatifs de l'embrasement de la population des esclaves pendant la Révolution à Saint-Domingue.
Alors il n'y a pas que des esclaves à Haïti, c'est bien toute la complexité, ce qu'il y a de si passionnant dans cette société dominicaine de la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'il y a bien entendu quelques colons blancs qui possèdent ce qu'on appelle les habitations, les grands domaines. Il y a une population blanche qui elle sert, comment peut-on dire, c'est l'administration, c'est le petit commerce, enfin c'est le tissu de la société. Jacques Salès.
Oui, donc les petits blancs travaillent comme artisans, comme boutiquiers, colporteurs. Ils travaillent comme sur les habitations, comme ce qu'on appelait les économes, comme chirurgiens. Les chirurgiens n'étaient que des gens qui avaient de vagues connaissances en médecine, comme administrateurs. Et puis, donc ils se retrouvent à la fois dans les bourgs, dans les campagnes et dans les villes, et ils forment le gros des troupes blanches, si je puis dire. Et sur les 30 000 blancs que devait compter la colonie en 1789, il y en avait peut-être quelques milliers de grands blancs qui vivaient sur leurs plantations.
Et 10 ou 12 fois plus des petits blancs, finalement.
Exactement.
Alors ça, on a envie de dire jusqu'ici, c'est une situation relativement classique pour l'époque. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'entre les deux se développe, entre ces deux sociétés, entre ces deux groupes sociaux, si l'on peut dire, se développe un troisième groupe qui est celui des anciens esclaves, des affranchis, les gens de couleur.
Qui, l'apparition de ces affranchis est dû à ce qu'on appelait à l'époque le libertinage des colons blancs avec leurs esclaves noirs. Donc des métis sont nés, on les appelle des mulâtres à Saint-Domingue. Et très souvent, le père de ces enfants décide de les affranchir, de leur donner la liberté, et très souvent également affranchit la mère de ces enfants. Et en 1789, la colonie comptait quelque 40 000 affranchis, en très grande majorité des sans-mêlés, donc des mulâtres. Et ces mulâtres étaient régis par le Code noir, mais par des dispositions particulières du Code noir, et notamment un édit de Louis XIV, 1685, qui prévoyait que les affranchis de l'esclavage bénéficiaient ou bénéficieraient d'une égalité de droit en matière tant civile que politique. Égalité civile et politique qui ne leur a pas été reconnue sur place. D'où les premières revendications et tensions.
Alors, nous allons voir justement comment chacun de ces différents groupes sociaux va vivre le cataclysme révolutionnaire. On apprend de métropole des nouvelles intéressantes et qui, bien sûr, auront sur place d'énormes conséquences.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous plongeons aujourd'hui sur Europa au cœur d'une histoire incroyablement riche, c'est l'histoire d'Haïti, Franck.
Et oui, Haïti qu'on appelait donc au moment de la Révolution française Saint-Domingue, qui était à l'époque une île unifiée, il n'y avait pas encore ces deux États, Saint-Domingue et Haïti. Alors, vous avez écrit un très beau roman, il faut le dire, Jacques Salès, mais quand on dit roman, on est loin du compte, parce qu'en vérité, ce livre est bourré de précisions, tout ce qu'il y a de plus historique, c'est-à-dire que vous nous emmenez, c'est de l'histoire qui est romancée en quelque sorte, mais on est sur une base extrêmement solide et précise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous connaissez très bien, vous, cette histoire haïtienne, c'est votre histoire, Jacques Salès.
Oui, je suis né et j'ai grandi en Haïti, que j'ai quitté il y a 50 ans, mais à l'âge de 20 ans. J'y ai de la famille. C'est dans cette terre que reposent mes parents et mes ancêtres. Donc j'y ai beaucoup d'amis. Je suis très attaché, bien évidemment, à Haïti, même si j'ai fait ma vie en France.
Vous avez des nouvelles sur ce qui se passe en ce moment et sur la grande détresse d'une partie de la population à la suite du passage de l'ouragan ?
Pour la première fois, je crois, en termes de nombre de morts.
Oui, oui.
Il y a eu moins de morts dans cette île qu'il y en a eu dans l'Amérique du Nord, riche et puissante. Mais j'ai entendu dire que la quasi-totalité des récoltes avait été emportée ou détruite par l'ouragan.
Oui, c'est ce qui...
Et que... on pouvait s'attendre à ce que les gens meurent de faim si un effort, si une aide puissante et massive et rapide n'était pas apportée par la communauté internationale.
Vous, Frédéric Régent, vous avez des liens actuels avec Haïti ?
Oui, alors mes liens actuels avec Haïti, c'est que je fais partie d'une organisation qui s'appelle Bibliothèques sans frontières et qui fonde la reconstruction d'Haïti, bien entendu, l'aide humanitaire d'urgence, mais pense aussi que la culture est au cœur du développement et notamment la création de bibliothèques, donc comme une bibliothèque interuniversitaire. Il faut savoir qu'à Haïti, enfin c'est phénoménal, il y a plus d'universités qu'en France, il y en a 190. Donc des fois des micro-universités oui. Qui ressemblent plus à un collège. Et donc voilà, l'effort de bibliothèque publique, bibliobus, donc voilà, c'est dans ce domaine-là auquel j'essaye de mettre ma petite contribution pour l'aide à ce grand pays, à cette grande nation qu'est Haïti.
Alors revenons, si vous le voulez, un peu plus de deux siècles en arrière. Au moment où ont lieu en France un certain nombre de grandes réformes et même révolutions, on est en 1789 et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est signée par Louis XVI au début du mois d'octobre 89. Évidemment, on est très attentif à Saint-Domingue, à ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment va réagir justement cette sorte de population intermédiaire, si je puis dire, qui est composée de ces esclaves affranchis. Comment réagissent-ils à ces idées nouvelles d'égalité, de fraternité qui arrivent de l'autre côté de l'Atlantique ?
Alors, ils ont commencé par envoyer en France une délégation pour demander à l'Assemblée constituante, issue des États généraux, de leur accorder un droit de représentation à l'Assemblée. Ce qu'avaient obtenu les colons blancs. Et ils l'ont obtenu. Mais un décret a accordé donc à ces affranchis l'égalité civile et politique qu'ils réclamaient. Sur place, en revanche, profitant de la mauvaise rédaction de ce décret, tant l'administration que les colons ont estimé que ce décret n'était pas applicable. On refusait de l'appliquer, d'où de nouvelles tensions qui vont précéder le soulèvement des affranchis contre l'administration française de l'île.
Frédéric Réjean, quelle est l'attitude aussi de ce qu'on appelle les petits blancs sur place? On imagine que les colons, eux, ne sont pas favorables du tout à tout ce genre de réforme.
Oui, alors il y a une hostilité de la part des petits blancs, parce qu'ils avaient encore la supériorité par rapport à ces libres de couleur, dont certains ont une grande richesse, d'être au moins supérieurs en droit.
En statut, oui, voilà.
Voilà, en statut. Et donc, ils voient d'un très mauvais œil l'obtention de ces droits politiques. Et donc, il y a des conflits qui sont très violents, des lynchages de libres de couleur qui vont se passer, donc notamment à Port-au-Prince, mais aussi en Martinique, à Saint-Pierre. Et donc, des conflits très violents vont naître donc entre petits blancs et libres de couleur.
Nous l'avons bien compris, c'est encore le calme relatif. Très vite, ce sera la tempête.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit qui revient maintenant sur Europe 1, sur la révolte des esclaves de Saint-Domingue, Franck.
Nous allons faire un petit saut dans le temps de quelques mois, quitte à revenir sur tous les prémices de cette révolte des esclaves de Saint-Domingue. Le 30 août 1791, les gens de couleur, c'est-à-dire les esclaves affranchis de Saint-Domingue, franchissent le pas. Ils optent pour la force contre les blancs et recrutent une armée de noirs. Il faut savoir que ces deux populations, vous l'avez bien compris, sont assez peu nombreuses et très vite, les deux camps vont avoir tendance évidemment à recruter parmi les esclaves. Le 25 février précédent, Vincent Auger, qui rentrait de Paris, et son ami Jean-Baptiste Chavannes, qui avait refusé l'un et l'autre la révolte et opté, bien que Jean-Baptiste Chavannes lui était beaucoup plus favorable, et opté pour des solutions politiques, avaient été soumis par les Blancs au supplice de la roue. Puis on avait appris la nouvelle venue de métropole grâce à l'abbé Grégoire. Par un décret de l'Assemblée en date du 15 mai, la citoyenneté était accordée par la France aux gens de couleur, mais pas à tous, seulement à ceux nés de père et de mère libres, de quoi désespérer les plus conciliants. De toute façon, l'heure n'est plus aux négociations mais à la révolte pure et simple. Révolte naguère prônée par Chavannes lui-même. Le 14 août 1791, sur un domaine situé près du Cap, l'habitation Le Normand de Mézy, a lieu en secret une assemblée d'esclaves. C'est l'épisode devenu célèbre de l'impressionnante cérémonie vaudou du bois caïman au Morne Rouge. L'officiant, le prêtre vaudou, on appelle ça le Ougan, c'est le terme consacré, c'est comme ça qu'on dit. L'officiant, c'est Boukmandouti, c'est lui qui déclenche l'offensive, c'est lui qui se trouve à l'origine d'une déflagration qui va secouer Saint-Domingue, retentir dans les Caraïbes et aux colonies voisines, résonner dans un grand fracas jusqu'en Europe où la nouvelle en parviendra, certes avec retard, mais non sans écho. Je cite le beau récit qu'en fait Jacques Salès. Une prêtresse avait plongé un couteau dans les entrailles d'un cochon noir, la victime avait bondi, le sang avait ruisselé, et les conjurés en avaient bu avidement. À genoux, Boukman avait prêté le serment de diriger l'insurrection, serment ordonné par la prêtresse. Les autres conjurés avaient juré après lui, dans la même attitude, de le suivre et d'obéir à ses volontés. Le 22 août, à 10h du soir, Boukman s'était mis à la tête de l'atelier de l'habitation Turpin, avait entraîné ceux des habitations Flaville et Clément et s'était dirigé sur l'habitation Noé. Là, le feu avait été mis aux cases et en un instant, tout le quartier de Lacoule et celui de Limbé avaient été embrasés. Des tourbillons de flammes s'élançaient dans le ciel, donnant le signal de l'insurrection générale sous la conduite de Boukman. Tous les esclaves s'étaient soulevés, armés de torches, de haches, de bâtons, de couteaux, de machettes. Toute la plaine du Nord était à feu et à sang. Dans les campagnes, les Blancs tombaient dans un fleuve de sang. Plus de 1000 citoyens étaient égorgés, éventrés, décapités au coupe-coupe ou à la hache, plongés dans du sucre bouillant ou jetés vifs sur des bûchers. Hommes, femmes, enfants, la vengeance ne connaissait pas de limite. Et ceux qui avaient échappé au massacre étaient venus au Cap augmenter l'effroi qui y régnait déjà. En 4 jours, le tiers de la plaine du Nord n'était qu'un monceau de sang, et les quartiers du Limbé et de la Coule étaient ravagés. Nouvelle inouïe, les Blancs sont en déroute. Voilà bien un fait sans précédent dans l'histoire. Une trêve est donc négociée. Un traité ne tarde pas à accorder aux gens de couleur, affranchit donc l'égalité, la fraternité. Ce sont là des vocables en pleine vogue à l'époque. Au passage, la figure naguère honnie de Vincent Auger est réhabilitée. Oh, pas de gaieté de cœur, j'ai pas besoin de vous préciser. Mais pour les colons blancs qui viennent de subir une très sévère alerte, nécessité fait loi. Évidemment, à l'extérieur de l'île, la nouvelle à peine croyable de cette insurrection victorieuse des esclaves d'une colonie que la France n'est pas en mesure de tenir, cette nouvelle n'est pas passée inaperçue dans les deux puissances coloniales concurrentes de la France dans la région, l'Angleterre et l'Espagne. Vous imaginez qu'on fait la fête, si je puis dire. Ces deux pays vont tout faire pour soutenir, pour encourager, pour armer et financer les insurgés. La métropole inquiète, raconte Catherine Ève Di Chiara. La métropole tente alors de reprendre les rênes de sa colonie et le 28 novembre 1791, elle envoie la première commission civile dans l'île. Celle-ci est décidée à remettre de l'ordre par la douceur et la modération. L'entreprise des trois commissaires fut un échec retentissant et la commission réembarqua en avril 1792. Le 18 septembre 1792, la seconde commission civile fait son entrée. Elle est plus musclée que la précédente, non point tant du fait de la personnalité des commissaires, Ayot et Paul Vérel, mais surtout du fait de son président, Léger Félicité Sontonax. Sontonax est décidé à aller loin dans le sens du progrès pour garder Saint-Domingue à la République et destitue d'emblée le gouverneur. Puis il annonce des élections pour que les assemblées et les municipalités soient entendues, étendu aux affranchis, décidé à se débarrasser de cet encombrant commissaire révolutionnaire, les colons blancs entrent pour en pourparlers secret avec les Anglais et les Espagnols pour leur livrer la colonie. En échange, ils leur demandent de les délivrer de l'étau des commissaires révolutionnaires, de la France métropolitaine elle-même et pourquoi pas des prétentions des gens de couleur affranchis. Coup de théâtre majeur, c'est cette réaction des colons blancs qui va amener Sontonax à prendre ouvertement le parti des esclaves. Cette fois, il leur promet la liberté contre leur engagement sous les couleurs de la République. Il est vrai qu'à Paris, entre-temps, les choses ont évolué. C'est le moins qu'on puisse dire. La royauté a été destituée au profit de la République. On a même décapité Louis XVI en janvier 93. Et bien voilà que le 29 août 1793, Sontonax proclame l'abolition générale de l'esclavage. Trop tard, en tout cas d'un point de vue stratégique et territorial, parce que les Anglais, évidemment, n'ont pas attendu ces revirements français. En juin 1994, ils vont occuper Port-au-Prince. Dommage, car une semaine après, un navire, un vaisseau baptisé l'Espérance, ça ne s'invente pas, ayant forcé le blocus, apporte à Sontonax la ratification officielle de cette liberté générale pour les anciens esclaves. Mais parmi les ordres apportés par l'Espérance, il y a aussi l'ordre pour la seconde commission civile de rembarquer. Pour Saint-Domingue, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, avec pour héros un personnage qui s'imposera comme le père de l'indépendance haïtienne, avec Toussaint Louverture. Qui est-il, ce Toussaint Louverture? D'où sort-il? Quelles sont les étapes de son combat et celles de sa tragédie personnelle? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Dry Your Tears Africa, extrait de la bande originale du film Amistad, un film de Steven Spielberg. À tout de suite sur Europe 1 avec Franck et ses invités. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'histoire d'Haïti.
jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Celle de l'histoire mouvementée d'Haïti. Toujours à l'honneur jusqu'à 14h sur Europe 1. D'ailleurs, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. Europe1.fr, mais aussi la page Facebook d'au cœur de l'histoire, Franck.
Et chose rare dans l'histoire, c'est une histoire qui s'écrit d'abord par les réactions des esclaves et par leur comportement. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, Frédéric Régent. Est-ce qu'on peut dire que ces esclaves ont une conscience collective? C'est ça le sujet même de votre ouvrage, si je puis dire.
Oui, alors... Je crois qu'il est difficile de... Enfin, l'analyse que je fais de la situation en ayant beaucoup étudié cette histoire, je pense pas qu'il y ait une conscience collective, c'est-à-dire une volonté collective de détruire le système esclavagiste au préalable, c'est-à-dire avant la révolte. Mais ce qu'il y a de commun à tous ces esclaves, c'est la liberté, avec des stratégies qui sont très différentes. Certaines stratégies qui sont d'obtenir la liberté du maître en lui rendant des services, en étant sa concubine, et d'autres par le marronnage, et puis d'autres aussi dans le cadre de cette révolte. Et la première revendication de ces esclaves révoltés, ils adressent une lettre au gouverneur de Saint-Domingue, c'est de demander la liberté pour 400 chefs et de réclamer l'amnistie pour tous les autres révoltés. Il y a environ 15 000 révoltés à ce moment-là, et de demander une journée de repos supplémentaire, de travail pour soi, notamment dans les petits jardins que les esclaves cultivaient pour se nourrir. Et donc c'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'il faut voir la vision des esclaves. C'est plus qu'une conscientisation collective de vouloir faire basculer un système.
Alors ça, c'est la révolte même qui est le fait des esclaves. Comment réagissent les deux groupes intermédiaires que sont les petits blancs d'un côté et les gens de couleur de l'autre?
Bien, leur réaction, alors déjà ils sont un peu les responsables de cette révolte, parce que dans le cadre de leur conflit, ils passent leur temps à... Dans un premier temps, ils arment les esclaves dits bons sujets, puis dans un deuxième temps, ils commencent à révolter les esclaves de l'adversaire. Et voyant cet embrasement qu'ils n'arrivent plus du tout à contrôler, ils vont, les deux catégories de propriétaires d'esclaves que sont les blancs et les libres de couleur, ils vont se mettre d'accord, ils vont signer des concordats, mais la révolte est déjà partie et donc ils ne peuvent plus la contrôler malgré les accords qu'ils signent ensemble.
On aurait pu penser que justement ces libres de couleur seraient le creuset même de la classe politique qui allait arriver au pouvoir une fois le pays indépendant. On n'y est pas encore tout à fait, évidemment, Jacques Salès. Et ce n'est pas ce qui s'est passé en vérité.
C'est probablement,
en tout cas pas directement ce qui s'est passé. Oui.
C'est probablement ce qui aurait dû se passer. Mais les commissaires civils, et notamment Sontonax...
Donc les envoyés de la Révolution, hein,
les envoyés de la Révolution, rapidement. Dont Sontonax, dont vous avez parlé, qui était un radical et qui disait « périssent les colonies plutôt que les principes », estimait qu'il fallait la liberté et estimait que le plus grand nombre devait diriger. Donc les esclaves, la masse des esclaves n'était probablement pas, à l'époque, qualifiée, entre guillemets, pour diriger le pays. Mais Sontonax a dit aux leaders des esclaves que tant qu'ils verraient des mulâtres ou des affranchis parmi eux, ils auraient à craindre pour leur avenir eux-mêmes. Donc Sontonax, après avoir assuré la promotion de la classe des affranchis pour maîtriser les Blancs, a opposé les Noirs aux affranchis mulâtres, et ça a été à ce moment-là la déflagration totale. De côté, les petits blancs révolutionnaires qui se battant contre, c'était avant la mort de Louis XVI, les petits blancs se battant contre les gouverneurs et l'aristocratie locale,
faisant leur révolution de leur côté.
De leur côté, mais révolution qui était visible et que tout le monde pouvait voir et entendre. Le combat des affranchis contre les Blancs.
Et voilà.
Et avec l'aide de Noirs. Puis le combat des affranchis contre les Noirs. La révolution, la révolte, l'insurrection générale des Noirs. Et puis arrivent les Anglais et les Espagnols. Alors et là, puis c'est l'ouverture.
Alors, ce Toussaint Louverture, c'est évidemment la figure la plus célèbre de tous les acteurs dont nous parlons aujourd'hui. Qui est-il et d'où vient-il, ce Toussaint Louverture? Comment est-ce qu'on peut le situer? C'est un peu complexe, du reste. Hein,
bon, Toussaint Louverture n'a pas été l'un des chefs à l'origine, au départ de l'insurrection. Il a été, c'était un esclave qui a été affranchi une vingtaine d'années, je crois, avant 1980, avant l'insurrection générale. Mm-hmm. Et parce qu'il avait, il connaissait quelque peu les vertus de certaines herbes, il avait été, il avait reçu le titre de médecin, qu'on appelle aux Antilles le docteur Feuille. Il a été, puis il avait été appris à lire. On lui avait appris à lire. Son parrain lui avait appris à lire et à écrire. Et très tôt, il a, alors qu'il n'était que l'un des seconds couteaux de Bouckmann et des autres, notamment Biassou et Jean-François. Il s'est très vite, qui avait rejoint les Espagnols, mm-hmm. il s'est très vite révélé un homme intelligent que les Espagnols ont promu et que, je vais très vite, les Français, voyant les victoires remportées par les Espagnols menées par Toussaint Louverture contre la France, ont tout fait pour l'attirer parmi eux. Et c'est à ce moment-là que la France a la nouvelle de ce que la France avait aboli l'esclavage dans toutes les îles françaises est parvenue à Saint-Domingue et Toussaint Louverture a rejoint la France.
Il s'est rallié à la République. Là, on est rallié à la République en 1794 en fait. Hein. Mm. Et ça, alors, Frédéric Réjean, à ce moment-là, on peut dire que Toussaint Louverture joue sur deux, pour pas dire même sur trois tableaux. C'est quand même, c'est une personnalité complexe. On peut pas dire que son jeu au départ soit très clair, honnêtement.
Il suit une trajectoire que l'on voit assez souvent dans la Révolution française, hein, où on a vu des gens passer de montagnards à être partisans de l'Empire, enfin des gens qui sont passés donc un peu ce qu'on appelle les girouettes de la République. Et donc, voilà, il suit une trajectoire que l'on voit beaucoup, très opportuniste. Et en 1794, donc il se rallie à la République. Alors, l'un des éléments de son ralliement à la République, c'est aussi ses dissensions avec les deux autres chefs militaires esclaves, Biassou et Jean-François. Il craint peut-être même un moment d'être éliminé par ces deux
rivaux. Donc il préfère s'appuyer
sur la République qui est en train de remporter un certain nombre de succès. Et donc voilà, il choisit ce camp à ce moment-là. Et finalement, grâce, il prend le contrôle du nord de Saint-Domingue et il va vaincre le chef des mulâtres du sud, qui s'appelle Rigaud, qui lui dominait le sud, et en 1800 il devient maître de l'ensemble de l'île.
Et alors là c'est assez extraordinaire parce qu'il devient une sorte de, j'allais dire de calife à la place du calife, mais il s'institue chef d'État.
Oui, voilà. Et on peut faire vraiment le parallèle entre lui et Napoléon Bonaparte à la même époque. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la même époque, entre 1796 et 1797, Napoléon Bonaparte a fait la conquête de l'Italie du Nord. Eh bien, Napoléon Bonaparte signe quasiment tout seul la paix avec les Autrichiens. Eh bien, lui, Toussaint Louverture, il va signer la paix tout seul avec les Anglais. Napoléon Bonaparte, en Italie, il va proposer une constitution pour la République qu'il crée en Italie du Nord. Eh bien, Toussaint Louverture, il va proposer une constitution pour Saint-Domingue.
Sauf que ce petit Bonaparte d'Haïti ne va pas plaire du tout au grand Bonaparte de Paris.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Haïti chérie, vie belle pays, passé ou non pas, faut que moi t'ai quitté, pour moi t'es capable de comprendre valeur. T'es capable d'apprécier pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour.
Georges Moustaki sur Europe interprète Haïti chérie. C'est une chanson patriotique d'Haïti créée en 1920.
C'est un peu l'hymne, en tout cas c'est l'hymne de cœur d'Haïti, cette chanson en fait. Hein. Contrairement à la dessalinienne qui elle est l'hymne officiel en fait.
Voilà.
Alors, cette figure de Toussaint Louverture est aujourd'hui encore, me disiez-vous à l'instant, Monsieur Salest, assez, controversée en Haïti même, c'est-à-dire qu'on se demande s'il était plutôt le général français ou plutôt le père de l'indépendance.
Je ne dirais pas que c'est controversé, je crois qu'il est devenu presque une idole pour tout le monde, aujourd'hui en Haïti. Mais la question qui était posée aux étudiants, aux collégiens, était la suivante. Toussaint Louverture était-il un général français ou a-t-il été le précurseur de l'indépendance? Car on ne peut pas répondre massivement et sans nuance à la question, car il s'est beaucoup battu pour la France et au nom de la France. Il a toujours dit qu'il agissait pour la France. Il est à peu près certain qu'il a voulu évincer ses rivaux. D'abord, les commissaires civils et l'ancien gouverneur, il les a fait partir. Mais c'est au nom de la France qu'il a battu les Espagnols et les Anglais. C'est au nom de la France, et parce que la France le lui demandait, qu'il a lutté contre Rigaud et qu'il a battu les mulâtres. C'est au nom de la France qu'il a essayé de rétablir une certaine prospérité sur l'île. C'est parce que les colons français de l'île l'y incitaient qu'il a fait rédiger cette constitution qui a été finalement sa perte, puisqu'il le déclarait gouverneur général à vie avec le droit de désigner son successeur, ce qui n'a pas été accepté, qui n'était pas acceptable par la France ou par Bonaparte.
Mais il y a donc une République d'Haïti qui naît, on est en 1804, elle naît des suites directes de cette révolte d'esclaves. C'est quand même un cas, c'est la première fois dans l'histoire qu'on observe un tel cas, Frédéric Réjean.
D'ailleurs, c'est un des seuls cas historiques on voit que c'est une révolte d'esclaves, enfin bon, on a expliqué tout ce contexte compliqué, mais en partie une révolte d'esclaves qui va notamment déboucher sur l'indépendance d'un pays et aussi donc la création d'une république qui va d'ailleurs pas durer très longtemps.
Non, parce que Bonaparte, qui va devenir Napoléon d'ailleurs, envoie son beau-frère sur place, Leclerc. Toussaint Louverture est arrêté, il est transféré en France où il mourra, on connaît cette histoire tragique pour lui. Et simultanément, on peut dire que les Français ont de grosses difficultés en Haïti, puisque tout ça va déboucher sur l'indépendance de l'île, finalement.
Oui, donc Toussaint Louverture est capturé donc en juin 1802. Ensuite, la fièvre jaune fait des ravages dans l'armée française. Et puis, la politique maladroite menée par les généraux français successifs, donc Leclerc, beau-frère de Bonaparte et Rochambeau, fait que...
une grande violence, tout ça, on passe vite.
Mais... Voilà, les généraux noirs, comme Dessalines, qui dans un premier temps s'était soumis à Leclerc, se révoltent à nouveau. Et à cela s'ajoute en 1803, l'Angleterre repart en guerre contre la France et voit d'un très bon œil la perte de Saint-Domingue. Et ceci débouche donc sur la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Et donc la perte de cette colonie qui représentait environ 20% du commerce français à cette époque. C'est considérable.
Oui, c'est comme
l'Allemagne aujourd'hui. Enfin,
c'était la perle des Antilles et c'était l'un des poumons de la France qu'on a très souvent tendance à négliger, notamment dans l'historiographie 18e. Mais enfin, ça nous entraînerait loin, ça. Vous parlez d'une naissance tragique, Jacques Salest. Est-ce que le mot d'héroïque n'est pas au moins aussi justifié pour parler de ces événements, alors certes très sanglants et en même temps tout à fait nouveaux et exemplaires?
Certainement. On peut dire que ça a été une épopée. Ou on peut dire que ça a été une tragédie. Bon, l'épopée, on vient de le dire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une révolution commencée par des esclaves, ceci à main nue, a débouché sur l'indépendance d'un peuple et la défaite d'une grande nation colonialiste. Mais c'est également une tragédie, certainement pour les quelques 9000 colons blancs et petits blancs qui y ont trouvé la mort, et les autres qui ont tout perdu, pour les 60 000 militaires français qui ont perdu la mort, qui ont perdu la vie à Saint-Domingue, pour les 200 000 anciens esclaves qui sont morts dans les combats de ces 15 années. Tout ça, c'est, et effectivement, en plus, l'anéantissement des cultures, la ruine de tout ce qu'avaient créé les colons pendant 200 ans, ça c'est une tragédie, mais c'est aussi une tragédie quand on pense, pour aller vite, quand on pense au sort aujourd'hui des Martiniquais et des Guadeloupéens.
Voilà.
Et qu'on pense au sort des Haïtiens. Alors il y a peut-être 2 ou 3 % des Haïtiens qui vivent peut-être aussi bien ou mieux aujourd'hui que ne vivent les privilégiés martiniquais et guadeloupéens, mais pour l'immense majorité.
Thème de réflexion, en tout cas. Oui. Haïti, naissance tragique de Jacques Salès, c'est aux éditions France Empire, La France et ses esclaves de Frédéric Réjean aux éditions Grasset.